Alors, comme je disais, on reçoit des gens extraordinaires à cette émission. Et pour la deuxième saison, on a eu une envie folle qui est de vous présenter non pas seulement des organismes extraordinaires comme on le faisait dans la première saison, mais aussi des gens tout autant d'exception qui travaillent bien souvent dans l'ombre. Donc, ce sont eux aussi des héros anonymes et qui méritent, entre vous et moi, un peu plus de lumière. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de recevoir aujourd'hui Esther Tranche-Montagne. Bonjour.
Bonjour, Daniel Lantaigne.
Bonjour, Esther Tranche-Montagne. Esther, on va régler la question tout de suite. On est collègues, je te connais, je vais te tutoyer. On fera pas un vouvoiement artificiel. On va garder ça à la bonne franquette entre nous deux. Merci d'être là et d'être prêté au jeu.
Et merci de m'inviter, mais surtout de la présentation que tu fais, Daniel. Ça met un peu de pression sur qui on est, mais c'est flatteur. Alors, merci beaucoup de la belle invitation.
C'est amplement mérité. On est super content de te recevoir. Esther Tranche-Montagne, dans ton quotidien, tu es première vice-présidente exécutive chez BNP Performance Philanthropique. On pourra en parler un petit peu plus tard. C'est quoi BNP, si tu le veux bien? Mais oui. Comme si ce n'était pas assez, tu as choisi d'occuper ce qui te reste de temps libre pour t'impliquer dans la communauté. Avant de parler de l'implication, j'ai goût de savoir, Esther, qu'est-ce qui, au départ, était une source d'intérêt à dire, ben, ce temps-là, au lieu d'écouter District 31, puis de lire, puis de faire du tricot, je vais l'utiliser à soutenir des causes qui, évidemment, j'imagine, connectent à quelque part avec toi.
Bien, premièrement, assurément, parce que je suis extrêmement mauvaise en tricot. Alors, donc, il fallait vraiment que je fasse autre chose. Femme finie de District 31, mais bon, ça aussi, c'est autre chose. En fait, je pense que c'est une question d'éducation. Je ne cacherai pas le fait que j'ai vu mes parents s'impliquer, ma mère surtout, s'impliquer beaucoup autant dans la famille, pour les amis, dans notre communauté. Alors ça, d'entrée de jeu, là, ça a été pour moi un super bel exemple. Ensuite, ben c'est sûr que mon cursus scolaire, je suis un pur produit des religieuses de Jésus-Marie, donc j'ai étudié au Collège Jésus-Marie à Sillery, où on nous a appris tout l'aspect de la bienveillance, de l'entraide, du partage. Alors, c'est pas étranger là à ce que j'ai souhaité développer ça plus tard. Puis, ben c'est sûr qu'en œuvrant dans la philanthropie, on dit toujours hein, qu'on est là parce que on a un amour profond pour l'homme avec un grand H. Mm-hmm. Et parce que aussi on veut changer le monde à notre façon. Alors, la façon la plus significative que j'ai trouvée, c'est d'œuvrer en philanthropie, mais aussi de m'impliquer là, dans ma communauté pour différentes causes. Alors, je pense que c'est un choix de vie, c'est un mindset de vie, puis qui nous fait nous développer, qui nous fait évoluer énormément comme être humain, en aidant, puis en faisant œuvre utile. Alors, voilà, c'est aussi simple que ça.
Puis clairement, la graine a été semée tôt de ce que j'ai compris. Maman d'Esther est peut-être pas loin de tout ça aussi non plus.
Vraiment.
Certainement. J'ai évidemment pris le temps de lire tes notes biographiques et là-dessus, j'ai repéré. Puis là, on fera peut-être une mise à jour s'il y a besoin d'une mise à jour, mais entre autres, YWCA, oh mon Dieu, mon anglais de Québec est ressorti. YWCA de Québec, soirée entre l'ombre et la lumière, le fonds philanthropique Laurent et compagnie, bénévole d'expertise, bénévole d'expertise qu'on a d'ailleurs reçu dans la première saison à l'émission. Oui. Est-ce que je suis à jour là, en termes d'implication philanthropique, ce qui m'apparaît déjà beaucoup là?
Ben, il manque le conseil d'administration, en fait, de la fondation du 35e bataillon de service des Forces armées canadiennes. Alors, il manque, moi, c'est pas jamais 203, c'est jamais 204. Alors, voilà, ça fait ça complète le tableau.
Ben, quand même, c'est un tableau bien rempli, disons-le. J'ai goût qu'on commence là, par peut-être les décortiquer un peu. Le fonds philanthropique Laurent et compagnie, celui qui, en tout respect des autres, et celui qui pique un peu plus ma curiosité, parce que, vite comme ça, Laurent et compagnie, comment je dirais ça, les fondations, que le nom de la fondation gâche le punch, là, il y a encore un punch, je pense, avec cette organisation-là. Donc, j'aimerais ça savoir un peu, ce que c'est, mais aussi comment ton implication prend forme, parce qu'on en reparlera plus tard, mais le bénévolat, c'est pas que trier des denrées dans un organisme de moisson, puis c'est déjà extraordinaire de le faire, mais il y a d'autres façons de s'impliquer. Alors, commençons avec Laurent et compagnie, si tu le veux bien.
Alors, le Fonds philanthropique Laurent et compagnie est dédié à amasser des sous pour venir en aide aux familles d'enfants qui sont atteints de maladies rares ou orphelines. Alors, comme les implications, c'est souvent une histoire de cœur, ben, moi, mon histoire de cœur, les gens qui me connaissent bien, elle est très forte dans mon réseau d'amis. Donc, j'ai la chance d'être très, très bien entourée, d'avoir des amis de longue date, dont Vincent Beaulieu, qui est le papa de Laurent. Et quand on a appris que Laurent avait un cancer, en fait, c'est un cancer médulaire de la glande de thyroïde qui est très, très rare. C'est sûr que les amis se sont mobilisés, non seulement pour Laurent, pour aider Vincent et Caroline, les parents, mais aussi pour créer une espèce de mouvement de sympathie, mais de se dire que nous, à notre niveau, parce qu'on n'est pas des gens nécessairement qui faisons des salaires astronomiques, on n'est pas des grands donateurs, mais que la force du nombre viendrait faire une différence. Alors, comme Vincent souhaitait donner du sens à quelque chose qui n'en a pas, hein, on s'entend, un enfant qui est malade, ça ne fait pas de sens. Alors, après une première activité philanthropique qui a été menée, qui était de faire un spectacle, parce que Vincent est aussi agent d'artiste, alors ces artistes se sont mobilisés pour faire un spectacle pour ramasser des fonds pour les enfants malades. Ben l'année suivante, on s'est dit, ben pourquoi pas en faire notre cueillette de fonds annuelle. Bon, ouais. Il est arrivé quelque chose qui s'appelait la pandémie.
Bien tannant, ça, pour des événements, là, c'est bien tannant, je pense.
Alors, ce qui fait qu'on a décidé de changer un peu le modèle. On va y revenir, par contre, l'an prochain, parce que là, on peut se réunir en salle et tout ça. Alors, on a décidé de créer un fonds philanthropique. On ne souhaitait pas nécessairement créer une fondation. Alors, c'est là que la Fondation Québec Philanthrope est venue à notre secours, puis nous a permis de créer un fonds philanthropique. Et où on souhaite redonner justement à des familles par l'entremise de différentes organisations comme Laura les Merveilles, les enfants de Pacho, les enfants de Gioia, donc différentes organisations qui viennent en aide à des familles qui soutiennent là ceux qui ont des difficultés financières pour des choses du quotidien, là, comme de faire l'épicerie, mettre de l'essence, avoir un logement intéressant quand l'enfant doit subir différents traitements à l'extérieur et qui leur permettent de venir donner un petit répit là, à ces gens-là qui vivent quelque chose d'extrêmement difficile. Alors, ben, on est des amis qui sont mobilisés dans ce projet-là. On est plus ou moins assidus, je vous dirais, selon nos occupations professionnelles, mais il y a toujours quelqu'un qui garde le phare. Alors, à tous les mois, on se réunit puis on fait évoluer le fonds philanthropique Laurent et compagnie.
Ah, ben c'est extraordinaire. Ben déjà, la mission est extraordinaire, mais au-delà de la mission, ce que j'aime, moi, c'est l'histoire en arrière. C'est pourquoi ce fonds-là vu le jour. Là, bon, il y a l'ami, il y a le fils, le Laurent. Et ça, c'est extraordinaire, tout ce que ça a pris forme. Et c'est une organisation, effectivement, qui peut amener beaucoup de bien, sachant que ben, quand un enfant fait face à une maladie, ben, il y a souvent un parent aussi qui prend une petite pause du travail et ça met une pression financière, là. Qui n'est pas tant agréable, donc de savoir qu'il y a un organisme comme ça et de savoir que ben, ça fait partie d'un, clairement, tes coups de cœur. J'imagine que c'est toujours par coup de cœur que ça se crée. J'ai goût d'aller sur un deuxième organisme qui, on ne cachera pas, je suis un grand fan de Mère Carmen, donc quand j'ai vu entre l'ombre et la lumière, ça m'a parlé directement. Le YWCA, que je dis beaucoup mieux que la première fois, qu'est-ce qui t'a amené à jouer un rôle? Est-ce que c'est un rôle plus d'ambassadrice pour cette organisation-là, pour l'événement en tant que tel?
Oui. Absolument. Donc, je suis ambassadrice. Je pense que c'est ma quatrième ou ma cinquième année cette année pour la soirée de l'ombre à la lumière qui a toujours lieu à l'automne, donc en novembre. Bon, fondamentalement, là aussi, ceux qui me connaissent savent que j'ai une foi inébranlable dans la capacité des femmes, de la mobilisation des femmes. Et c'est quelque chose qui, je pense, se traduit bien à la YWCA de Québec. Un groupe de femmes, donc là, on est plusieurs ambassadeurs et ambassadrices parce qu'on a mis parmi nous quelques hommes quand même.
Ah, et vous êtes bonne pour ces hommes.
Absolument. Donc, on vient, ben, vous connaissez là, la mission des Y, mais le but, c'est vraiment là, d'aider des femmes qui vivent un un moment difficile de leur parcours parce que j'ai toujours pensé qu'on n'était pas à l'abri. Hein? Un jour, notre carrière va bien, la vie de famille va bien, on connaît un certain succès, puis là, à un moment donné, ben soudainement, on a un revers, il arrive une situation qui est inévitable pour certaines, puis bon, ben on se retrouve en difficulté. Ben je pense qu'on se doit, comme société, de tendre la main à ces femmes-là, puis de les aider, de les supporter momentanément, puis de leur permettre un second souffle, un nouvel envol. Alors, c'est lors de cette soirée-là qu'il y a des femmes qui passent de l'ombre à la lumière.
Oh mon Dieu, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que ça arrive à faire. Puis merci d'être ambassadrice. Donc, j'imagine, là, pour si je traduis ambassadrice, il faut vendre des billets pour cet événement-là. Ça doit ressembler un
Absolument.
Peu à ça. Voilà. Voilà. C'est mieux. Le terme ambassadrice, c'est beaucoup plus beau que vendeur ou vendeuse de billets. Mais faut c'est ça. Il faut remplir cette salle-là. Ça prend des sous. Je veux dire, ces dons-là vont permettre de faciliter ou en tout cas d'amener un baume sur la vie de ces femmes-là. Alors, tant mieux. Tant mieux si cet événement-là le fait.
Et honnêtement, Daniel, à chaque soirée, les gens ressortent de là complètement transformés, sous le charme. C'est toujours une soirée où il y a une espèce de magie qui opère. Évidemment, l'émotion est à son comble, mais on assiste à des dévoilements de parcours qui sont exceptionnels. Puis à chaque fois, les gens en ressortent ravis. Alors, si vous n'avez pas vécu l'expérience, là, mais écoute, Daniel, je t'invite.
C'est ça que je me disais. je vais le mettre à mon agenda à l'automne. Esther, on est déjà rendu à mi-parcours de notre rencontre dans cette émission-là qui est extraordinaire. On va prendre une courte pause, puis cette pause-là, on va utiliser un petit clip là, qui date d'un petit bout de temps de BNP, mais je voulais qu'on en parle, donc ça va mettre la table pour le retour. Merci beaucoup, Esther, d'être avec nous.
Imaginez un monde plus engagé, plus responsable, où chaque personne contribue au bien commun. Votre monde. Voilà ce que nous faisons. Nous vous aidons à obtenir plus pour que vous puissiez accomplir plus. Pour que de bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. Pour que le monde aille un peu mieux. Nous pratiquons la philanthropie engagée. Nous faisons plus que vous aider à atteindre vos objectifs. Nous renforçons votre capacité d'agir et nous augmentons vos moyens pour rendre votre organisation plus agile et vos équipes plus fortes. Parce que la philanthropie a le pouvoir de changer les gens. Dans quel monde voulons-nous vivre? Pourquoi pas un monde où les enfants peuvent se nourrir, apprendre, rêver et croire en leur avenir? Où chaque personne plus fragile trouve l'aide qu'il faut et où chaque intervenant a les moyens d'accompagner et de soutenir? Où les étudiants ont accès à des bourses d'études pour persévérer et s'accomplir? Où les institutions de santé ont les technologies et les infrastructures qu'il faut pour accueillir et pour guérir? Vous voyez? Voilà pourquoi nous nous engageons. Nous nous engageons pour la santé, l'éducation, la recherche, l'art, la culture, la science, l'environnement. Nous nous engageons contre l'itinérance, le racisme, l'abus, la violence, contre l'inaction. Comme vous, avec vous. Comment? Avec un service de recherche qui vous aide à mieux comprendre votre environnement. Avec une vision qui inspire vos équipes et qui oriente vos dirigeants. Avec des stratégies performantes qui augmentent vos revenus. Nous encourageons votre équipe, votre conseil d'administration et vos bénévoles à marcher vers un but commun et vos donateurs à investir plus. Nous vous aidons à bâtir votre culture philanthropique pour changer le monde un pas à la fois. Montez à bord. Nous avons la même destination.
Alors, la philanthropie a le pouvoir de changer les gens que j'ai entendus dans ce clip-là, et je pense que c'est complètement juste, puis on en a un bel exemple avec toi, Esther, aujourd'hui. On reviendra sur les autres implications qu'on n'a pas eu le temps de couvrir, mais comme on vient d'entendre un peu, je vous dire, l'infopub de BNP, performance philanthropique, et des fois, c'est important de se rappeler qu'on a un travail hein, qui nous permet d'être bénévole sur d'autres mandats. Brièvement, c'est quoi BNP? Puis je pose la question, puis j'ai dit tantôt qu'on était collègues, fait que tu comprends bien que c'est pour le bénéfice des gens qui nous écoutent. Oui. C'est pas moi pour faire mes devoirs et en apprendre plus sur l'organisation dans laquelle je travaille, mais qu'est-ce que c'est que BNP et surtout, qu'est-ce que tu fais, toi, au sein de BNP?
Alors, en fait, peut-être pour compléter ce qui a été dit là, dans le clip précédent, j'écoute ça, puis c'est avec autant de fierté après toutes ces années où je suis chez BNP, BNP qui aura 25 ans d'ailleurs cette année. BNP, Bolduc, Nollet, Primo, donc nos trois fondateurs, maintenant à la tête de BNP, Christian Bolduc, qui est là depuis, qui est un des membres fondateurs. En fait, BNP, c'est une équipe multigénérationnelle, c'est une équipe multiculturelle, mais surtout multitalentueuse. Mmh. Donc, des gens qui ont des parcours atypiques, des gens qui viennent de différents milieux puis qui souhaitent aujourd'hui venir prêter leur expertise, donner d'eux-mêmes à différentes organisations pour changer le monde. Hein. C'est ce que je disais au tout début, mais c'est ça. C'est que nous, plutôt que de changer le monde de façon globale, ben, on essaie de changer une organisation à la fois. Alors, on touche vraiment à tout ce qui touche autant l'opérationnel, les organisations, que tout ce qui touche le rayonnement des organisations, donc que ce soit sur la gouvernance, sur les stratégies philanthropiques, sur la planification stratégique. Maintenant, on a développé aussi la responsabilité sociale. Donc, on est là vraiment pour répondre aux besoins des organisations, là où elles sont rendues, parce que on travaille avec des organisations de toute taille. Donc, de la très grande fondation jusqu'à l'organisme communautaire du coin de la rue, on est là pour leur proposer des humains d'abord, de travailler avec des humains profondément engagés et convaincus de ce qu'ils font et de la pertinence de ce qu'ils font. Alors, c'est ça BNP Performance Philanthropique.
Ben, j'haïs pas ça du tout. J'haïs pas ça du tout ce que c'est BNP, parce que on reçoit des organismes. Ben, un parce que j'y travaille, ça serait bien bête de dire le contraire, mais on reçoit des organismes à chaque semaine. On est dans notre deuxième saison, puis il y a différentes façons de soutenir les organismes, mais ultimement, le point, à chaque fois je leur demande c'est quoi vos défis, vos enjeux, bien, le seul point qui revient de manière unanime, c'est toujours le financement. Et financement, bien oui, on peut le faire par des événements, on peut le faire par la sollicitation, par des bénévoles, des cabinets, mais à un moment donné, on manque aussi des fois un peu d'air, on manque d'oxygène et de ce que je comprends, c'est que BNP vient donner un peu d'oxygène, renforce un peu les capacités pour les aider à atteindre leurs cibles. Alors, c'est un joueur intéressant dans l'écosystème des organismes qu'on reçoit, fait que je trouvais ça intéressant
qui vient donner une perspective, Daniel, parce que souvent, comme DG d'organisation ou comme gestionnaire d'organisation, on se trouve un peu tout seul.
Vraiment.
Alors, d'avoir recours à des services professionnels comme ceux de BNP, ça vient te donner un regard, une perspective différente sur ton organisation, puis comment mieux la faire évoluer.
Hey, certainement. En tout cas, merci à BNP d'exister depuis bientôt 25 ans et de soutenir ces organisations-là. Parlant d'organisation, comme je disais, on a déjà reçu Bénévole d'expertise la saison précédente, donc je ne veux pas passer rapidement parce que c'est une organisation extraordinaire. Mais là, quand tu as mentionné la fondation du 35e bataillon, puis il doit me manquer des mots parce que je n'ai pas écrit assez vite, tu disais que tu étais un produit des sœurs, puis là, tu travailles en philanthropie, puis tu atterris à quelque part dans cette histoire-là sur un conseil d'administration d'une fondation d'un bataillon. Je vous dis, je pense qu'il me manque deux, trois éléments pour mettre mes pièces de puzzle ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, il s'est passé de bouche à oreille. Un de nos collègues, Daniel, était très impliqué au sein du 35e bataillon de l'armée canadienne et en fait c'est la réserve de l'armée canadienne et puis il me dit Esther, on a besoin d'une administratrice sur le conseil d'administration de la fondation du 35e bataillon puis il me dit bon, ça fait bien, t'es une femme mais en plus tu as tout ce qu'il faut pour venir brasser la cage un peu, pour venir secouer les puces de façon polie, gentille, mais d'une organisation qui, des fois, fonctionne avec des réflexes d'avant, avec les moyens d'avant aussi. Alors, c'est là que j'ai décidé de m'impliquer avec la Fondation du 35e et je complète actuellement un processus pour être nommée lieutenant-colonel honoraire, 35e bataillon de service. Alors, ça m'a fait découvrir, parce que dans notre métier, je pense que tu peux le dire, toi aussi, Daniel, on apprend à tous les jours, on découvre des organisations extraordinaires. Puis moi, c'est ce que je fais avec le 35e bataillon de service, c'est que j'apprends à connaître des gens qui font des choses à tous les jours absolument fantastiques qui viennent en aide à des populations. Comme on dit, c'est pas juste une histoire de fusils puis de bombardements, là. C'est pas juste une histoire de guerre, mais c'est aussi d'aide humanitaire, d'aide concrète chez nous, mais aussi ailleurs. Des gens qui sont extrêmement bien structurés, qui font beaucoup avec pas tant, contrairement à tout ce qu'on peut croire. Et si je suis impliquée là, c'est aussi parce qu'il y a un grand nombre de femmes qui sont impliquées dans ce bataillon-là et de femmes immigrantes. Alors, ça m'a vraiment interpellée. Alors, c'est là où j'ai choisi de joindre la fondation du 35e bataillon de service.
Très, très bonne raison. Et j'ai déjà hâte de pouvoir t'appeler lieutenant-colonel honoraire lorsque ça sera finalisé. Sache-le. Sois prévenu. Considère-toi averti. C'est quand même 4 bonnes implications. C'est sûr que c'est à différents niveaux. Il y a des moments plus intenses dans l'année, surtout lorsque c'est un événement, c'est plus concentré. Il y a des gens qui se demandent toujours un peu, c'est quoi la bonne limite d'implication, jusqu'à quel point on peut maintenir un équilibre avec sa vie professionnelle, sa vie personnelle, à quel point si on en prend plus, c'est super parce qu'on se tient plus de causes, mais peut-être qu'on va finir par diluer son implication. Mon hypothèse, c'est qu'à 4, l'assiette doit vraiment être pleine, là.
Quand même. Oui. Adolescente, je me souviens, j'avais des amis qui me disaient « Esther, tes implications nuisent à l'école, lâche l'école. je vous dirais pas si vos implications nuisent à votre travail, lâchez votre travail. » Non, absolument pas. Je pense qu'il faut trouver un équilibre. C'est sûr que dans mon cas, peut-être que le fait de m'être impliquée dans ma famille, peut-être un peu sur le tard, m'a permis, jeune, de m'impliquer beaucoup. Comme je dis, il y en a qui choisissent d'aller au gym, il y en a qui choisissent d'avoir d'autres passions, d'autres occupations. Moi, c'est là où je me réalise. Alors, donc, je fais un peu moins de gym, puis je fais un peu plus de bénévolat. À chacun notre façon, hein. Puis je pense qu'il y a aussi un temps dans la vie où on peut se permettre de le faire. Il y a un temps où c'est bon. Tu sais, on ne se cachera pas non plus qu'il y a un temps où c'est bon pour notre carrière aussi d'être impliqué, d'être vu, puis de choisir stratégiquement nos implications. Puis il y a un temps aussi où on peut donner plus parce que financièrement, on est plus à l'aise et on peut davantage s'impliquer. Puis dans mon cas, ben, comme je te disais, c'est un mode de vie. C'est un choix que j'ai fait. J'ai choisi d'en faire ma carrière aussi. Alors, je pense que c'est une question de choix. Mais il faut s'assurer d'être bien dans ça et d'être honnête envers soi-même puis envers les organisations dans lesquelles on s'implique. Parce qu'il n'y a rien de pire que des bénévoles qui viennent siéger sur un CA ou qui viennent s'impliquer, mais qui, au final, ne font jamais rien parce qu'ils n'ont jamais le temps et tout ça, bien, ça ne les aide pas eux, puis ça n'aide pas l'organisation. Alors, je pense qu'il faut avoir la franchise, la transparence de dire, écoutez, là, je peux m'impliquer, là, j'ai le temps de le faire, ou présentement, c'est plus difficile, je ne peux pas le faire, je fais une pause, je reviendrai, ou je choisirai d'autres implications. Mais il faut être honnête avec soi-même puis avec les gens avec qui on s'implique.
Ah ben oui, ça part de là, puis ça nous ramène à la belle métaphore du masque dans l'avion. Vous savez, dans l'avion, s'il y a une dépressurisation de la cabine, j'essaie de faire mon terme savant, là, mais puis on dit toujours dans la vidéo que si on veut aider quelqu'un, il faut d'abord mettre son masque, parce que si on finit par manquer d'oxygène, on ne sera plus utile à personne, là, dans le fond. Donc, il faut savoir s'écouter, il faut savoir quand arrêter, quand prendre un pas de recul ou quand... Ben c'est ça, des fois, quand saisir une autre opportunité, si ça se présente pour différentes raisons, puis elles sont généralement toutes bonnes. Le bénévolat au Québec a eu, comme les événements, a eu un petit moment tough à passer. Les bénévoles, souvent étant des gens beaucoup plus âgés que toi, qui des fois sont à la retraite, ont de la disponibilité, peuvent le faire. Ce sont des gens qui étaient évidemment un petit peu plus sensibles face aux effets secondaires de la COVID. Est-ce que selon ton œil, ta boule de cristal, mais surtout, où est-ce que tu en es aux premières loges dans différentes organisations? Comment se porte le bénévolat au Québec, selon toi?
Mais je pense que c'est là où ça se transforme. En fait, les implications changent. Et tout à l'heure, tu disais, Daniel, c'est pas juste d'aller couper des carottes puis servir de la soupe, mais c'est aussi de... Je pense que les gens sont de plus en plus ouverts au bénévolat, entre autres au bénévolat d'expertise, au bénévolat de ce qui nous touche, nous. T'sais, moi, si j'ai des connaissances dans tel ou tel secteur d'activité, ben, je veux bien prêter ces connaissances-là. Ça, je pense qu'il y a une belle évolution de ce côté-là. Il y a de plus en plus, je remarque, il y a de plus en plus de jeunes professionnels qui veulent s'impliquer. Donc, qui veulent faire du bénévolat. Et ça, je l'expliquerai par le fait que les plus jeunes souhaitent voir un impact direct et immédiat de ce qu'ils font, de leur implication, des différents gestes et actions qu'ils posent. Alors, parce que on est porté à penser, on va demander à nos retraités, mais nos retraités, là, ils sont drôlement occupés.
Oui, souvent plus, des fois même.
Ils ont des agendas pas mal chargés. Alors, puis on dit tout le temps à demander à quelqu'un qui est occupé, c'est sûr que ça va se faire, il va trouver du temps et tout ça. Alors, je pense que le bénévolat est en constante évolution, en constant changement, mais il y a une chose qui change, c'est que les organisations expriment mieux leurs attentes et surtout expriment mieux leurs besoins réels. Et ça, c'était un problème. Puis là, on voit une évolution de ce côté-là.
Vraiment, ça conclut super bien.
Il faut les aider, ces bénévoles-là.
Ces paroles-là concluent super bien. Merci beaucoup pour cet aperçu-là aussi sur le monde du bénévolat. Merci, Esther. Des gens investis comme toi, engagés, bienveillants, inspirants comme toi, je nous en souhaite plein pour le bien de notre société. Et clairement, en bonne compagnie, le temps passé très, très vite. Je te remercie beaucoup de t'être prêté au jeu. Pas toujours facile d'avoir la lumière sur soi, mais c'était un grand plaisir. Je te souhaite évidemment bon succès pour la suite et merci de t'impliquer autant. Et à vous à l'écoute, j'espère que Esther aura su vous inspirer, piquer votre curiosité, qui sait, et vous pourrez peut-être voir comment vous pourrez vous impliquer de façon citoyenne. Restez à l'écoute. On se retrouve dans quelques minutes avec un autre héros anonyme.